Et là, voyez-vous, Jésus accomplit les prophéties. Et lorsqu'il a 30 ans, Jean-Baptiste, qui est son cousin d'Élisabeth, qui est une cousine, lui il est cousin issu de Germain, mais Élisabeth et Marie, la Vierge Marie, sont cousines. Elle a 80 ans, sont des cousines avec décalage de génération. Elle a cet enfant à 80 ans, et cet enfant Jean-Baptiste, à 30 ans, quand il voit son cousin arriver, il dit « C'est l'agneau de Dieu ». Et je suis l'ami de l'époux, et lui, il est l'époux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh bien, l'agneau sacrifié depuis Moïse, c'est lui. Le sauveur du monde, c'est lui. Dieu fait homme, qui se marie avec la nature humaine, c'est lui. Et voilà. Alors vous allez me dire, mais bon, ça c'est des histoires de juifs. Hein. C'est entre eux. Ben oui, mais enfin quand même, c'était il y a 2000 ans. Et cette histoire, elle a été crue par des peuples à travers le monde, par des missionnaires qui sont partis à gauche, à droite, que l'on va raconter que Dieu s'était fait homme, né d'une femme, qu'on ne pouvait plus répudier, qu'on ne pouvait plus être polygame, que le mariage était sacré, qu'il fallait être fidèle, qu'il fallait être juste, et que Dieu s'était fait homme pour prendre les péchés sur lui et mourir crucifié par les hommes. Et que la victoire du Christ était dans sa résurrection et dans la promesse de la récompense de la vie éternelle. Eh ben dis donc, il y a des Indiens qui ont cru ça. Il y a des aborigènes qui ont cru ça. Il y a des... Comment dire? Vous n'allez pas me dire que... pendant 300 ans dans le bassin méditerranéen, il n'y a pas un glaive qui s'est levé pour que tout le bassin méditerranéen devienne chrétien. Vous pouvez contester éventuellement l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, mais vous savez, le grand Inca était détesté par les tribus indiennes. Et les Espagnols étaient 300. Et ça, c'est difficile de remonter toute la propagande antichrétienne médiatique. Mais les Américains du Sud et centraux sont devenus chrétiens eux-mêmes, pas par la force des armes. Et vous avez un grand saint parmi les Aztèques, qui est le saint Diego, qui a vu la Vierge Marie dans les années 1550. Et actuellement encore, les Américains du Sud et centraux, au Mexique, vénèrent l'image. Parce que sur le poncho en fibre végétale de Diego, la Vierge Marie a imprimé son image sur tout le poncho, qui est actuellement conservé dans une basilique à Mexico. Vous savez, le tissu, la soie, hein, ça brûle et ça se dissout au bout de 200-300 ans. Hein. Et bien là, c'est du cactus tissé, enfin c'est des fibres végétales. Et bien le poncho est toujours là. Et quand on fait une analyse au microscope électronique, il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de couleur. Et vous avez une image de la Vierge Marie en couleur, avec un manteau bleu, parsemé d'étoiles jaunes, avec un ange en dessous, avec un croissant de lune, enfin c'est... Et elle est enceinte. Vous voyez? Et tous les Indiens qui voyaient ça, disent, oh, c'est la mère du Dieu des Blancs, qui vient nous parler. Notre-Dame de Guadeloupe. Et voilà. La Guadeloupe est appelée Guadeloupe en l'honneur de cette apparition. Eh bien, voyez-vous, tout cela, il y a eu beaucoup de miracles. Jésus, lui, si vous voulez, on le touchait, on était guéri. Il a guéri des dizaines de milliers de personnes sur 3 ans. Je dis bien des dizaines de milliers. La foule se pressait, le touchait, tout ça. Il a ressuscité 3 morts, il a multiplié 5, de 7 pains à 5000 pains. de 5 pains à 7000 pains, enfin bon, il a montré qu'il était Dieu. Et ces miracles, voyez-vous, le grand miracle qu'il ait fait, l'avant-dernier, c'est de ressusciter un homme de 50 ans qui était mort depuis 4 jours et qui était décomposé. Et lui-même, qui s'est, au bout de 3 jours, ressuscité sans que lui se décompose parce qu'il n'a pas laissé son corps se décomposer. Mais il a été crucifié, flagellé, tuméfié, couronné d'épines et il apparaît en pleine santé, mais avec les plaies, de belles plaies, mais des plaies ici. D'ailleurs, dans le suaire de Turin, vous avez, qui fait 4 mètres, hein, 2 mètres, 2 mètres, vous avez toutes les traces de la passion, comme si le corps du Christ avait été un flash. Et dans des proportions impeccables, comme personne ne pourrait le réaliser, et c'est de la brûlure du tissu, pixelisé. Quand ils ont fait les analyses au carbone 14, ils n'ont pas tenu compte des 2 incendies qui ont imprégné le tissu. Et, ils ont fait une moyenne des 3 datations. Mais ils n'ont surtout pas tenu compte, il y avait eu 2 incendies et avec du carbone qui s'était imprégné dans les tissus. Donc ça dérègle totalement la datation au carbone 14. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez les traces des épines dans le cuir chevelu. Vous avez le visage qui est complètement tuméfié, le nez gros, les joues grosses, voyez. Le coup de lance qui est à droite parce que les soldats romains atteignaient le cœur sous les côtes par la droite, mais jamais par la gauche parce que les côtes auraient protégé le cœur. Vous avez les clous qui sont dans les métatarses, véritablement, et non pas comme les artistes le mettent au milieu des mains, parce que sinon ça tiendrait pas. Les chairs se déchireraient. Oh, c'est un petit miracle le suaire de Turin, mais c'est quand même très impressionnant. Et vous avez ensuite la vie des saints. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce Messie, ce sauveur du peuple hébreu? Il nous dit, vous devez maintenant vous aimer les uns les autres. Vous devez prier pour vos ennemis. Vous devez plutôt subir le mal que en faire. Alors, il ne faut pas exagérer, hein, on peut se défendre. Mais quand même, le Christ nous dit d'être plutôt attaqué qu'attaquant. On le sait. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit sur le mariage? Il n'arrête pas de nous dire qu'il s'est marié avec nous. Un jour, un roi voulait faire les noces de son fils et il a appelé les invités. Le maître de la vigne voulait envoyer son fils pour ses noces. Et le premier miracle qu'il fait, qui est de changer de l'eau en vin, avec création de matière, ça semble, risible de changer de l'eau en vin. Mais c'est un miracle de premier ordre. C'est aussi difficile que de ressusciter un mort, de reconstituer les cellules du corps et de remettre l'âme dedans. Parce que la composition du vin, ce sont des atomes différents de l'eau. Donc ces créations de carbone, ces créations d'éléments de terre, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'œnologues qui auraient aimé goûter le vin créé directement par Dieu. Il n'empêche que le maître du banquet des noces, quand il a goûté ce vin, boum, hein, c'est côté le Romané Conti, ça doit être du vinaigre. Oui, mais voyez-vous, il l'a fait à un mariage. Et la Vierge Marie a dit à son fils, ils n'ont plus de vin. C'était pour qu'il fasse un miracle. Et le Christ a dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est dur quand même. Femme, c'est Ève. C'est Ève qui demande à Adam, on va les sauver. Et la Vierge Marie qui ne se demande pas, parce qu'elle sait sa mission comme nouvelle Ève, hein. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus dit, allez puiser de l'eau et apportez-le au maître du festin. Donc il puise l'eau, il l'apporte, et eux qui voient de l'eau, tout d'un coup qui voient l'eau rouge, porte au manifestin qui lui prend une coupe et goûte ce vin et se tourne vers le mari et la femme, les jeunes mariés qui fêtent leur mariage. D'habitude, dans un repas, on sert le meilleur vin au début, parce que les papilles sont toutes fraîches. Et ensuite, on sert un vin moins bon à la fin, parce que la langue est déchargée. Et là, tu as réservé jusqu'au bout le meilleur vin. Et vous voyez, cette louange qui est faite par un homme qui goûte un vin excellent lors d'un mariage, c'est très beau parce que c'est prophétique, hein, c'est très surnaturel. Cette louange va à Dieu. Elle dit, tu as réservé le meilleur vin, mais il parle à un couple. Et cet homme et cette femme, ce jour-là, représentaient Adam et Ève. Le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Dans l'incarnation. Et Jésus allait se faire baptiser, c'est-à-dire se faire noyer dans l'eau, et mourir, et sortir de l'eau et respirer. En Occident, on ne plonge pas les enfants ou les adultes dans l'eau, sauf dans le chemin néo-catéchuménal, si vous voulez, hein, plouf plouf, mais bon, on fera plus simple. Voilà. Eh bien, mais ça signifie la mort de la croix. On ne respire plus, on meurt comme Jésus et on vit comme Jésus. Les mérites de la mort de Jésus nous sont appliqués. Eh bien, le mariage chrétien n'est plus seulement le mariage entre un homme et une femme patriarcale, monogame, polygame, répudiation, divorce maintenant, les orthodoxes en l'an 1000 et les protestants en 1500 ont 1000 divorces. Pourquoi ? Oh, c'est venu par les puissants, par les nobles et les bourgeois. Ah, on ne peut pas divorcer. Ah ben non, 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 cher empereur. Alors toi qui es évêque de Constantinople, tu vas me dire que je ne peux pas divorcer. Ben non, ça fait 1000 ans depuis Jésus que c'est... Ah. Alors tu vas mourir. Je vais relire saint Matthieu. Ah, sauf Pornéia. On ne peut pas quitter sa femme. Pornéia en grec, ça veut dire les relations comme ça, naturelles. Mekevia, c'est l'adultère, c'est relation hors mariage, alors qu'on est marié. On est marié et on va avec une autre femme ou avec un autre homme. Alors donc, si votre femme vous trompe, vous pouvez divorcer. Ah bon ? Bon, ma femme m'a trompé. Donc voilà, c'est plus ma femme. Il en prend une autre. Mais même ça ne rompt pas le mariage. Et là, Luther, dans les années 1530, il a les princes allemands qui disent « Alors, on peut divorcer ?»« Ben, je me sens un peu seul, j'ai pas beaucoup de soutien. Oui, vous pouvez prendre tous les biens de l'église, les abbayes, les évêchés, les églises, tout, et on peut divorcer ?»« Oui. » c'est pas autrement que le divorce est entré dans le protestantisme. Alors, certes, Luther, lui, il considère que on est pécheur et qu'on peut rien contre le péché. Et que la miséricorde de Dieu vient sur nous comme ça, et qu'on peut continuer à pécher, Dieu nous pardonne, on pêche, il nous pardonne, on pêche, il nous pardonne, mais c'est dans le même moment. Si vous voulez, pour qu'on... Nous, quand on demande pardon à Dieu, c'est... On prend la résolution de ne plus pécher. Et même si on se casse la gueule après, on veut persévérer dans le bien. Et c'est comme ça qu'on reçoit l'absolution. Alors pour terminer, je voudrais vous dire donc cette sainteté du mariage, elle est dans une histoire biblique impressionnante et dans des siècles de miracles. Vous savez, si les Portugais sont catho, hein, c'est parce que dans la plaine de Fatima, il y a 70 000 d'entre eux. Et le Portugal n'est pas un grand pays, donc ils ont tous quelqu'un dans leur famille qui a assisté au miracle de 1917. Ils ont été confirmés dans la foi. Et puis vous avez des saints qui ont fait des miracles. Vous avez le Padre Pio qui avait Mais les médecins qui l'approchaient, les gens qui l'approchaient, il avait les... Alors, le bon Dieu lui avait fait les stigmates au milieu de la main. Il dit, alors, c'est pas tout à fait historique. C'est déjà pas mal, hein, parce que si le trou était là, vous voyez, il y a tous les nerfs à cet endroit-là. Hein. Donc, on n'aurait pas beaucoup entendu le Père Pio prêcher ou autre. Et on a sondé le cinquième stigmate du cœur. Par contre, là, justement, il y avait un trou dans les poumons et qui ne saignait pas. Enfin, il saignait, mais normalement, vous savez, quand vous avez un couloir comme ça qui arrive au cœur, que vous avez le cœur qui était probablement fendu et que le sang n'en sortait pas, ça, c'est quand même très, très miraculeux. Il est mort en 1968, c'était pas au Moyen-Âge. Si vous voulez, que vous dire, hein, vous avez Saint Philippe Neri à Rome qui a ressuscité un petit enfant, Saint Jean Bosco qui a ressuscité deux petits enfants, le Saint Jean Paul II qui a prié parce qu'il est au ciel et qui, vous avez une religieuse avec le même maladie que Jean Paul II qui a guéri immédiatement et subitement, elle avait un Parkinson paralysant. Et elle, du vivant de Jean-Paul II, ne voulait pas le voir à la télévision parce que, ayant elle-même un Parkinson, ne voulait pas voir comment elle deviendrait. Et là où le bon Dieu a de l'humour, c'est que c'est par Jean-Paul II qu'elle a été guérie. Enfin, par la prière de Jean-Paul II qui a été guérie et de la même maladie. Mais bon, je vous ai déjà énormément parlé. Je jette tout ça pour vous donner toute la profondeur du mariage chrétien. Et que si, quand on va reparler de tout ça d'une manière... vous comprenez bien que le mariage des baptisés est un mariage extrêmement surnaturel. Et que c'est complètement décalé par rapport à 2017. Et que c'est très surnaturel. Et que si on vous demande d'aller le dimanche à la messe, si on vous demande de vous confesser pour faire une bonne communion, si vous n'êtes pas dans les dispositions et tout ça, et que vous n'êtes pas encore mariés alors que vous vivez ensemble, et ça, eh bien, c'est qu'il y a véritablement une rencontre avec Dieu et qui est très exigeante, qui est dans l'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres. Hein. Si vous allez voir le spectacle d'Obispo, hein, c'est la variété, hein, n'est-ce pas, mais c'est, voilà, c'est très gnangnang, c'est très crémeux, mais c'est, qui voulez-vous, c'est finalement beaucoup plus exigeant qu'on ne pense. Aimez-vous les uns les autres. Ouais. Parce que vous, si vous vous engagez dans le mariage chrétien, c'est qu'il y a que vous n'allez pas pouvoir divorcer. Et que si vous divorcez, c'est que vraiment il y a un gros, 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 gros problème, et que les prêtres ne pourront admettre une nullité du mariage que si, en fait, vous aviez, vous étiez schizophrène, maladie psychiatrique, névropathe, que vous aviez une maîtresse avant, pendant et après le mariage, enfin, des conditions toutes particulières qui font que, apparemment, là, pour l'instant, vous avez peu de chance d'avoir des excuses pour ne pas vous aimer. Voilà. Alors, après ce rouleau compresseur, avez-vous quelques questions? De toute façon, les prochaines séances, je vous laisserai beaucoup plus la parole. Mais là, si vous voulez, je suis un incorrigible TGV. Oui. Voilà. C'est pour vous faire rêver, hein, vous dites, mais... Alors c'est ça le mariage chrétien, vache. C'est Moïse, c'est Abraham, c'est machin, c'est truc, c'est bidule. Enfin David, il a eu 11 femmes quand même. Il est en train de m'expliquer qu'on ne pourra avoir qu'une seule. Et oui. Et d'ailleurs quand les apôtres ont demandé à Jésus, mais on a mal compris ou tu nous dis qu'on peut plus divorcer, enfin plus répudier d'ailleurs. Et oui, parce que il en était comme ça dès le commencement. Et c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est fini. Oui, mais enfin, vous savez, quand les Juifs sont arrivés à Rome, hein, à Lyon, à Lutèce, hein, à Londres, et qu'ils ont expliqué gentiment à ces Gaulois à ces gallo-romains, à ces saxons, à ces celtes qui ne pouvaient plus répudier leurs femmes. Et il a fallu pas mal de miracles pour les convaincre. Vous avez eu beaucoup de miracles, vous savez, dans les premiers siècles. Beaucoup de miracles. Et il y en a encore actuellement, mais on n'en parle plus. Vous avez au Japon une statue de Marie en bois massif, examinée après les apparitions, les locutions à la radio, tout ça. On fait tout fait subir. Pendant 101 jours, elle a pleuré. Et elle a suinté de l'eau pendant 101 jours. Vous imaginez des petites japonaises catholiques religieuses qui sont là et qui voient l'eau tomber par terre. Des japonais qui l'eau tomber par terre, qui sont là avec des cotons pour c'est pas possible. Et puis en plus, ce sont les larmes de la Vierge Marie, ouais. Ces petites religieuses catholiques japonaises qui ont vu cette statue pleurer pendant 101 jours. C'était en 1973. Et l'évêque du lieu est arrivé, il a vu une statue pleurer. Alors les messages de Marie sont sanctifiez-vous, priez, faites le bien, aimez-vous les uns les autres, enfin c'est très simple. Et il n'empêche que vous avez comme ça des relais dans la vie humaine où Dieu montre que sa présence. Voilà. Donc vous voyez, c'est votre mariage et pas un mariage à la mairie. Hein. C'est un mariage avec la foi en Jésus. Et donc nous verrons plus tard d'autres développements plus sociologiques, hein, n'est-ce pas ? Et parce que là j'ai empiété sur la deuxième séance, et jeudi prochain. Et jeudi prochain, on prendra le Nouveau Testament, qui est tellement beau par rapport à l'Ancien, et nous lirons tout ce qui a trait justement au mariage. Ouais. À l'amour entre un homme et une femme. Avez-vous des questions? Vous êtes complètement ivre, saoulé? Si.
Comment?
En tout cas, jeudi prochain, vous me les posez, hein, parce que j'ai entendu le dire. Non, mais attends, c'est possible.
Comment? Moïse.
Comment vous expliquez le fait qu'à un moment donné, est-ce que Dieu ait décidé d'éradiquer toutes les mauvaises œuvres, entre guillemets? Est-ce qu'à un moment donné, ça serait Adam et Ève qui transmettraient quelque chose de... Est-ce que c'est un truc qui se transmet d'une génération?
Non, une malédiction.
Ouais.
Non. Le péché originel, c'est une absence de connaissance et d'amour de Dieu. Le bébé ne connaît pas Dieu. Mais, le baptême lui donne une lumière surnaturelle dans son âme. Alors vous allez me dire, alors tous les enfants pas baptisés alors? Eh bien, c'est l'affaire de Dieu. Et Jean-Paul II, dans le catéchisme de 1992, disait, on recommande à la miséricorde de Dieu tous ceux qui meurent sans baptême, sans conscience, et ceux qui arrivent à l'âge de conscience, alors là, c'est par rapport à leur volonté et au bien et au mal qu'ils ont fait. Mais tous les enfants ou ceux qui ont une trisomie très, très forte, vous avez des trisomiques qui arrivent à l'âge de conscience hein, et qui distinguent le bien et le mal. Donc ceux qui auraient une maladie, qui les empêche d'arriver à une maturité de saisir le réel et de bien le juger, hein, eh bien à ce moment-là, c'est il n'y a que Dieu qui puisse entrer dans une âme humaine pour en voir tous les désirs et toutes les potentialités, et Dieu tient compte aussi de la prière des parents. Mais si vous voulez, en soi, pour nous, nous savons bien que la nature humaine est faite d'intelligence et de volonté. Et un enfant, même innocent, vous voyez, Comment connaît-il Dieu? C'est pour ça qu'on baptise les bébés. Et dans l'ignorance de... Mais ce n'est pas une malédiction qui se transmet, même si certains vont le présenter comme ça. Hein. Mais ce n'est pas l'enseignement catholique net et clair. Par contre, le fomes peccati, c'est-à-dire le foyer de péché chez l'être humain, c'est une propension à l'égoïsme et à ramener tout à soi-même, qui est fondée sur quelque chose qui n'est pas faux, c'est de vouloir être heureux, être satisfait. Donc Freud et les Pink Floyd, quand ils nous disent « I get no satisfaction » et « je suis frustré » et « ça va pas du tout hein, », c'est pas faux sur le fond, dans le sens où nous devons faire le bien et être heureux de faire le bien, on n'a pas à être masochiste, mais à un moment donné on peut concéder des choses pour être plus heureux, voire même pardonner à ceux qui nous font du mal, ce qui là est au-delà de la justice. Et comme Dieu l'a fait, la nature humaine est bien embêtée, parce que Dieu a gratuitement donné la capacité de pardon à tout homme, de recevoir son pardon à tout homme. Et par contre, si vous ne voulez pas pardonner, ou si vous... il y a ce qu'on appelle l'enfer. Alors, il y a un certain nombre de prêtres qui disent l'enfer, ça n'existe pas, c'est une idée. L'enfer, c'est la volonté humaine qui, au moment de la mort, refuse de vivre avec Dieu. Il n'y a pas de schtroumpf grognon au ciel. Le ciel n'est pas un lieu, c'est un état de l'âme. On aime Dieu. Vous voyez, le ciel tout bleu, tout lumineux, et noir quand le soleil est passé de l'autre côté. Donc, le ciel, c'est la vie en Dieu. C'est pas les nuages ou une planète. Et donc, une âme ne peut pas être dans la vie divine et dire « Je te déteste. Je te déteste. Je vous déteste tous. » Mais vraiment, je vous déteste tous. J'aimerais bien vous faire souffrir maintenant comme j'ai fait souffrir sur Terre. Ah mais non, c'est pas grave, agou, allez, on s'aime tous. L'enfer, c'est une âme qui déteste Dieu et qui ne regrettera jamais. Il y a une iconographie qui vous présente des âmes en enfer qui disent « Oh, pitié, je veux en sortir » et tout. Rien du tout. Je souffre, mais je ne veux... Il y a eu comme ça un damné qui a dit « Et celle-là, on ne prononce jamais son nom pour la Vierge Marie lors d'un exorcisme. Et celle-là, on ne prononce jamais son nom parce qu'il la déteste. Elle est trop gentille, elle a fait la volonté de Dieu. Voilà. Donc c'est... Vous voyez, pour atténuer le fait que je vous dise que l'enfer existe, je vous dis... Pour se damner, il faut le faire exprès. Et voilà. Bon, ça vous rassure. Ah non, mais là... Mais peut-être que parfois, je serai en Pierre Giman hein, le jeudi soir, hein, donc vous aurez moins peur. Hein, voilà. Et là, c'est dimanche, tout ça, je sortais de la messe, je suis en grand apparat, donc... Eh oui, c'est comme ça. Je vous souhaite bien du courage dans ce monde où, justement, où ce que dit l'Église est plus ou moins accepté et autre. Mais là, on était vraiment dans les récits bibliques qui sont parfois lieu de discussion, mais pas tous. Hein. L'existence d'Abraham, de Moïse, de David, tout ça, c'est...